Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 11 à 20. Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur. Et nous cherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère que, au fond de vous-même, vous me connaissez aussi. Nous ne voulons pas nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre à ceux qui se vantent de détails extérieurs et non de ce qui est dans le cœur. S'il est vrai que nous sommes insensés, c'est pour Dieu que nous le sommes. Mais si nous sommes dans notre bon sens, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous domine, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui, car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Il m'arrive, en tant que modeste ambassadeur du Christ, d'entendre des gens m'expliquer qu'ils ont coupé les ponts avec l'Église parce qu'ils en ont été déçus, qu'elle n'a pas joué son rôle au moment où ils l'attendaient, qu'elle n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Vous en connaissez dans votre entourage, dans votre famille. Peut-être avez-vous été dans ce cas-là vous-même. Avec ce verset, nous avons une bonne illustration de la théologie de Paul. En fait, Jésus de Nazareth, le Jésus historique, comme on dit aujourd'hui, l'intéresse très peu. Ce qui importe, ce sont bien plutôt son humiliation, sa mort et sa résurrection. Exactement ce que certains théologiens libéraux, et il faut le dire, la plupart de nos contemporains, considèrent comme plus ou moins mythique. Ici, pourtant, c'est bien le Christ ressuscité et le rôle qu'il joue dans la vie de l'Église et de ses membres qui est au centre de cette christologie. Et ce rôle évoqué dans ce chapitre est essentiel en ce qu'il fonde la nature de notre Église. L'Église, en tant que communauté, est l'ensemble des êtres qui sont unis au Christ par son action. C'est vous, c'est moi. Et j'aimerais ce matin, alors que vous m'accueillez, m'arrêter avec vous sur le sens que nous voulons donner à cette communauté que nous voulons former. Paul nous dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu. Quel est cet être nouveau ? c'est le chrétien. Mais qu'est-ce que le chrétien ? Je partage avec vous la définition qu'en donne Dietrich Bonhoeffer. Le chrétien, c'est celui qui ne cherche plus son salut, sa liberté, sa justice en lui-même, mais en Jésus-Christ seul. Il sait que la parole de Dieu en Jésus-Christ le déclare coupable, même s'il ne sent pas cette culpabilité, et que cette même parole de Dieu en Jésus-Christ le déclare libre et juste, même s'il est incapable de sentir cette justice et cette liberté. Le chrétien vit de l'accusation et de la libération qui viennent de Dieu par une parole qui lui est étrangère. Et on a redit à l'instant l'importance de ce terme, de cet adjectif étrangère dans ces lieux. L'adjectif étranger est le mot clé, un des mots clés en tout cas de l'enseignement chrétien, qui sans cesse insiste sur la richesse de l'altérité, sur le fait que seul Dieu, celui qui est l'autre, par définition, peut nous libérer. C'est la raison pour laquelle le chrétien a aussi besoin des autres chrétiens pour entendre dans une parole extérieure, excentrée, ce qu'il ne peut pas trouver en lui-même. Voilà ce que Dieu a en vue lorsqu'il nous rassemble, comme ce matin. Il veut que ce qui nous empêche de le louer, de le prier et de le remercier, c'est-à-dire notre ego, soit pulvérisé par sa grâce. Et pour cela, il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Si le Christ est celui qui nous ouvre l'accès à Dieu, il est aussi celui qui fait de nous des frères et des sœurs. Paul le déclare, « Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui sans tenir compte de leurs fautes. » Ce verset correspond à l'idée que l'Église existe dans la solidarité de tous ceux qui sont consolés, exhortés en raison de leur co-appartenance. C'est que dans la communauté chrétienne, on s'aime. Eh oui. En tout cas, c'est un projet. Aimer au sens chrétien de l'agapé se distingue de l'éros et de la philia, que je vous laisse expérimenter. L'une en famille, l'autre en couple, ne vous trompez pas. L'agapé, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans le juger. Parce qu'en Jésus-Christ, nous réalisons que tous les hommes sont réconciliés, qu'ils sont, qu'ils le veuillent ou non, bénéficiaires d'une grâce qui les dépasse totalement. Et ce n'est pas ici de la gentillesse, ce n'est pas ici de la bonté, ce n'est pas non plus de la charité, toujours un peu condescendante. Non, il s'agit d'une solidarité totale. Dans l'Église, on se connaît réciproquement. Chacun voit l'autre comme il est, même quand on le rencontre pour la première fois. On sait, en le rencontrant, qu'il est un pécheur égaré, comme nous, et qu'il ne peut pas s'en tirer tout seul, comme nous. Le sens de la fraternité chrétienne, selon moi, est cette capacité à reconnaître en l'autre le péché qui est en moi. Aimer l'autre, au fond, c'est reconnaître en l'autre son imperfection, c'est se reconnaître soi-même. Aimer l'autre, c'est reconnaître en lui son imperfection et se reconnaître soi-même. C'est le message que je voulais partager avec vous ce matin. Quand on comprend cela, on ne regarde plus son voisin de la même manière. Tout à coup, il prend une autre dimension. Qu'il soit sous-préfet ou sans papier. Dieu nous apprend à nous rencontrer entre frères, comme il nous a rencontrés en Jésus-Christ. Dieu lui-même nous instruit, et notre tâche consiste à transmettre cette instruction et à persévérer même quand notre frère en Christ ne nous y aide pas beaucoup. Et même quand nous doutons de nous-mêmes, comme Gédéon dans le texte que nous avons entendu, doute de lui quand le Seigneur l'appelle à son service. Et nous arrivons, je crois, à ce qui fait la particularité de la communauté chrétienne. Quand je me suis rendu compte, ça a été dit tout à l'heure, que je ne pourrais pas passer ma vie à jouer au rugby, et que j'ai décidé de faire des études de théologie, j'en ai parlé un peu autour de moi pour avoir quelques avis, et je me souviens très bien d'un conseil qui m'a été donné, parmi d'autres, et celui-là m'a marqué. Ne te fais pas d'illusions sur l'Église. C'était un très bon conseil. D'abord parce qu'il faut toujours empêcher les gens de se bercer d'illusions, mais que c'est surtout juste théologiquement. Le grand danger des communautés chrétiennes, c'est ce qu'elles attendent d'elles-mêmes, leur orgueil, finalement. Et c'est ce qui nous amène à pouvoir être déçus de l'Église. Comme dit Bonhoeffer, vouloir davantage que ce que le Christ a établi entre nous, ce n'est pas désirer une fraternité chrétienne, c'est s'en aller à la recherche de je ne sais quelles expériences communautaires inédites qu'on pense trouver dans l'Église parce qu'on ne les a pas trouvées ailleurs. La véritable communauté chrétienne se situe alors sur une ligne de crête entre d'un côté ceux qui viennent plus ou moins régulièrement pour leur bien-être, sans trop de considération, pour la vocation qui est la leur de réellement faire assembler, et on ne les juge pas, on les accueille. Très bien même, du mieux qu'on peut. Et puis, à l'autre extrémité, celles et ceux qui, dans un excès inverse, ont développé une sorte de fantasme de l'Église, de communauté, qui répondrait à un idéal venu d'on ne sait où. Or, rappelle Bonhoeffer, pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut que nous soyons déçus. Déçus par les autres, déçus par les chrétiens, ou tout au moins déçus par soi-même. L'Église telle que nous la voudrions, l'Église de nos rêves, n'existe pas, et c'est une chance. Dieu ne nous permet pas de vivre dans cette atmosphère d'expérience bienfaisante et d'exaltation pieuse qui nous enivre, car Dieu n'est pas un Dieu d'émotion, ni un Dieu des sentiments, mais un Dieu de vérité. Et c'est pourquoi seule la communauté qui ne craint pas la déception, qu'inévitablement elle éprouvera, en prenant conscience de toutes ses tares, pourra commencer d'être telle que Dieu la veut. Il faut donc résister à la tentation de projeter ce que nous nous imaginons être l'idéal d'une communauté, et Dieu nous y aide en ne le permettant pas. Car Dieu est la rêverie pieuse, elle fait de nous des êtres durs et prétentieux, elle nous fait exiger l'impossible de Dieu et des autres. Au nom de notre rêve, nous posons à l'Église des conditions et nous nous érigeons en juges de nos frères et de Dieu lui-même. Exiger l'impossible de Dieu, des autres et de nous-mêmes, voilà ce qui peut nous conduire à la déception, à la désillusion, à nous éloigner de l'Église. Alors que vous le comprenez maintenant, c'est justement la première étape, une étape indispensable, même si elle est douloureuse. Finalement, le grand enseignement sur la nature de l'Église, c'est qu'elle est incapable de vivre par elle-même, selon sa propre parole, selon ses propres désirs, mais uniquement en se fondant sur une parole qui vient de l'extérieur et qui, de manière à la fois radicale et incessante, remet en cause ses certitudes, ses préjugés, tout en l'assurant qu'elle est pardonnée. Et cet enseignement, je terminerai par là, devrait nous inspirer. Il devrait nous aider à avancer, concrètement, ensemble, à aller avec les forces que nous avons, tout simplement, comme Gédéon va avec les forces qu'il a. Allons maintenant avec les forces que nous avons, ni plus, ni moins. Regardons-nous les uns les autres, avec les lunettes de la grâce qui nous font prendre conscience de notre faiblesse, et constatons combien, sur ce point, nous sommes semblables. Avec humilité, alors, nous pourrons accueillir la parole libératrice qui nous pousse à la reconnaissance et à l'action. La reconnaissance, d'une part, car nous sommes conscients que Dieu seul a le pouvoir et la bonté de nous pardonner malgré tout. Et l'action, d'autre part, car la véritable Église dont il a été question devient visible lorsque, par la puissance du Saint-Esprit, elle sort de ses retranchements, elle sort de ses murs pour rayonner au dehors, dans le monde. Amen.